Les hommes noirs nés aux États-Unis, et assez chanceux pour être encore en vie à l'âge de 18 ans, sont conditionnés à considérer l'emprisonnement comme inéluctable. À la plupart d'entre nous, la prison apparaît simplement comme une phase toujours prochaine, dans une série d'humiliations. Être né esclave, dans une classe asservie de la société, et n'avoir jamais éprouvé l'existence d'aucun fondement réel permettant un quelconque espoir, m'avait préparé aux accidents traumatisants qui conduisent progressivement les Noirs jusqu'aux portes des prisons. J'étais prêt pour la prison. Ce n'était plus qu'une question mineure de mise au point. Commencer par les administrateurs adjoints, les comités de gestion, les comités d'inspection, pour aboutir aux gardiens-chefs et aux gardiens. Il convient de passer en revue tous ces gens, du directeur au gardien, avant de pouvoir logiquement examiner le produit. Ajoutez à cela un peu de ciment et d'acier, des barbelés, des fusils, des pistolets, des massues, les gaz lacrymogènes qui ont tué le frère Billingsley, à San Quentin en février 1970, tandis qu'il était enfermé à clé dans sa cellule, et les manches de pioche de Folsom, San Quentin et Soledad. Pour savoir comment les hommes vont se conduire en prison, il est de première importance de connaître cette prison. C'est le milieu qui durcit les hommes, non l'inverse. Là où je suis actuellement, ils ne nous laissent jamais sortir de nos cellules sans nous mettre des bracelets de fer, des chaînes autour de la taille, et sans attacher nos poignets à nos ceintures. Cette opération est toujours précédée d'une fouille, complète. À tout moment de la journée, il faut s'attendre à ce qu'une bande de 12 flics ou plus fasse irruption à l'étage pour rechercher et détruire nos objets personnels. L'attitude des gardiens envers les détenus est à la fois défensive et agressive. Il en est ainsi jusqu'à ce que les détenus leur cèdent sur toute la ligne. Par céder, je veux dire se prosterner à leurs pieds. Alors seulement leur attitude évolue vers une condescendance paternaliste. Beaucoup de détenus refusent de s'abaisser à cette sorte de rapport, bien qu'il y en ait quelques-uns qui aiment ça. Avec un groupe d'individus de toute évidence inférieurs au reste de la société par leur manque d'instruction, de culture, de sensibilité. Nos cellules sont si éloignées de l'endroit normalement réservé au repas que la nourriture est toujours froide avant de nous parvenir. Certains jours, nous n'avons qu'un seul repas que l'on puisse appeler cuisiner. Nous n'avons jamais rien d'autre que des sandwichs de viande froide pour le déjeuner. Aucune variété dans les menus, qui se répètent une semaine après l'autre. Nous sommes confinés dans nos cellules 23h30 sur 24. Un racisme patent s'exerce en toute liberté. Les flics ne se contentent pas de rien faire pour empêcher les agressions racistes. Ils les encouragent, activement. En ce moment même, il y a une bagarre à l'étage au-dessus. Il est 11h10 du matin. Le 11 juin. Aucun noir n'est supposé pouvoir rencontrer là-haut quelqu'un d'autre que des noirs. Mais une erreur a dû se produire. Un ou deux noirs ont fini par s'y trouver, avec 9 ou 10 détenus blancs, exaspérés par les conditions de vie, ou coopérant ouvertement avec les flics. Tout le plafond tremble. Au corps à corps, nous gagnons toujours. Nous perdons parfois quand les flics leur donnent des couteaux ou des pistolets à air comprimé. Le déjeuner sera en retard aujourd'hui. L'odeur du gaz lacrymogène ou de quelque autre saleté descend jusqu'ici, nous piquer le nez et les yeux. Il y a un blessé grave. J'entends le fourgon à viande de l'infirmerie qui démarre. Les flics leur avaient probablement donné des armes. Mais je dois être juste. Parfois, pas plus souvent qu'il n'est nécessaire, ils font exprès de nous envoyer un détenu blanc ou mexicain. C'est toujours parce qu'il ne s'est pas montré assez raciste dans ses propos ou ses attitudes. Une fois que les frères, rendus furieux par les agressions précédentes, ont tapé sur ce détenu blanc, il rejoint les rangs des racistes. Je disais que la grande majorité des gens qui vivent dans cette région de l'État et cherchent à se faire employer dans cette institution sont des gens chez qui un racisme non déguisé constitue l'un des aspects traditionnels de la personnalité. La seule chose qui puisse mettre un frein à leur racisme, les empêcher de se laisser aller aux pires extrémités, c'est la crainte de perdre leur emploi par suite de pressions extérieures qui tendent à contrôler leur violence. C'est du moins, en partie, ce qui se passe à l'aile O, quartier max, sécurité maximum, de Soledad. Prenez un individu qui appartient depuis un certain temps à la population des prisons. Un détenu moyen, avec une mentalité d'enfant de 12 ans, la norme nationale. Il a envie de sortir, envie d'une femme, d'une bière. Supposons que ce détenu soit blanc, et qu'il ait été pris lors d'une tentative d'évasion. Ils peuvent le mettre en sécurité maximum. C'est le pire qui puisse lui arriver. Les détenus ordinaires n'ont ni chaîne, ni bracelet de fer. Des postes de TV, de radio, des tourne-disques, des chandails civils et des clés, leur permettant de fermer leurs cellules pendant le jour, détournent leurs esprits des vrais problèmes. Ils ont aussi une cour de récréation, avec toutes sortes de ballons et d'appareils pour lancer et taper. Ils ont un gymnase, des films, une bibliothèque bien approvisionnée en littérature de pur divertissement. Et bien sûr, il y a aussi des ateliers, où pour 2 ou 3 cents de l'heure, les détenus de Soledad font de la papeterie, des meubles et des vêtements. Il y a des gens qui apprécient vraiment ce travail, qui leur procurent quelque argent pour s'acheter de petites choses, et qui les aident à passer le temps, sans penser à leurs vrais problèmes. Prenez un innocent, détenu parmi tout cela. Un flic a cru le voir essayer de forcer une serrure. Mettez-le dans une partie quelconque de l'aile O, la partie la plus exécrable du centre de redressement, qui comprend l'étage de sécurité maximum. Il sera enchaîné, avec les bracelets de fer attachés à la ceinture, et harcelé par les flics, qui, en tout détenu, voient un informateur. Il sera harcelé aussi par les autres détenus blancs, qui le presseront d'adopter leur forme de racisme et leurs opinions. Ils se désignent tous par le surnom de « serviteur d'Hitler ». S'il a tendance au début à soutenir les Noirs, il est repoussé par eux, les Noirs. 3 semaines suffisent. Les plus forts ne tiennent pas plus de 15 jours. Il y a eu un blanc qui a vécu cette expérience de l'aile haut, sans y perdre son équilibre mental, sans succomber à la folie d'un racisme outré et ignoble. Un séjour à l'aile haut détruit les processus logiques de l'esprit, désorganise complètement les pensées d'un homme, le vacarme, les clameurs furieuses proférées à plein gosier, les cris de rage impuissantes qui s'échappent de derrière les barreaux, les chocs métalliques contre les murs, les plateaux d'acier, les lits de fer violemment repoussés, les bruits caverneux des éviers de fonte et des appareils sanitaires, les odeurs, celles des excréments humains qu'on nous jette, celles des corps pas lavés, de la nourriture avariée. Quand un blanc s'en va d'ici, il est démoli pour la vie. Aucun noir ne quitte la sécurité maximum sur ses 2 jambes. Ou bien, on l'emporte dans le fourgon à viande, ou bien il part en rampant et en léchant les bottes des flics. Et encore, c'est une façon de parler. Parce que personne ne peut être libéré sur parole directement au sortir de l'aile O. Ça ne se fait absolument pas. La commission de libération sur parole n'examine même pas les cas des prisonniers en sécurité maximum. Aussi, quand un homme lèche les bottes des flics, ce n'est pas pour être relâché au dehors, mais pour avoir le privilège de monter à l'étage supérieur de l'aile O du centre de redressement. Et là-bas, le léchage de bottes doit continuer, puisque l'enjeu est la libération. Vous pourriez compter sur les doigts d'une seule main le nombre de gens qui sont sortis de l'aile O proprement dite directement dans la rue depuis que la prison existe. Personne n'a été libéré de l'aile O. La sécurité maximum mène à la prison ordinaire. Passer d'ici au monde extérieur est proprement impensable. L'homme sortant d'ici doit aller à l'étage supérieur du centre de redressement. De là, il pourra passer à la prison ordinaire et seulement ensuite nourrir des rêves de relaxation éventuelle. Aussi, on comprend qu'en sécurité maximum, les détenus se sentent déprimés. Ils sont tombés tout au fond du piège social, si loin de tout secours qu'ils perdent leur point d'appui. En 2 semaines, ce petit homme moyen, qui a abouti en sécurité maximum parce qu'il était soupçonné d'avoir voulu s'évader ou parce qu'il avait tenté de le faire, ce petit homme a si bien perdu ses points d'appui qu'il ne s'en remettra jamais complètement. C'est une expérience pire que le Vietnam. Il esquive les plombs. Il peut être forcé de se battre au couteau dans un duel à mort. S'il fait la sourde oreille et se montre plus ailé que les autres, Il sera défié, accusé d'être traître à sa race et aux opinions politiques de celle-ci, le fascisme. Certains détenus soutiennent sans retenue le racisme des flics. Ce sont des blancs. D'autres le soutiennent étourdiment, par leur propre racisme. Ce sont les noirs. Mais, ici comme au dehors, le racisme des noirs est une réaction qui leur est imposée, un réflexe d'adaptation, un moyen de survivre. La peinture que j'ai faite de la population ordinaire de Soledad pourrait porter à croire que la vie y est au total assez supportable. Cette impression fausse résulterait de l'absence, dans ma description, d'un trait important de la situation, la présence du terrorisme. À partir des bureaux du directeur et des gardiens-chefs, se trouve diffusée une atmosphère paralysante, effrayante, de violence et d'intimidation. Comment un petit groupe d'hommes armés pourrait-il tenir en main et régenter un autre groupe, beaucoup plus nombreux, sinon par la peur? Nous avons un gymnase, façon d'inciter les hommes à dépenser leur énergie sur un ballon plutôt qu'à faire la révolution. Mais si vous traversez ce gymnase avec une cigarette allumée, des ennuis vous attendent. Il y a un flic qui est là pour vous coincer. Ils ont mis un écriteau, défense de fumer. Si vous n'avez jamais vu l'écriteau, vous êtes puni. Si vous jetez la cigarette pour vous conformer au règlement, vous êtes puni. Le sol est considéré comme quelque chose qui pourrait prendre feu. Je ne sais pas exactement quel est le prétexte. Il n'y a pas de cendrier. Le flic fonce sur vous. On vous ordonne sans ménagement de ramasser le mégot avec vos mains. À partir de là, l'incident grossit. Vous avez un gymnase, mais vous ne pouvez y faire que certaines choses, en respectant des règles bien définies. Comme ces règles changent suivant l'humeur des flics, il est plus prudent pour un homme de rester dans sa cellule. Vous pouvez travailler pour un salaire qui va de rien du tout à 3 cents de l'heure. Mais une fois que vous avez accepté de faire un travail payé dans le secteur industriel de la prison, le seul moyen pour vous de laisser tomber, c'est de vous faire exclure pour mauvaise conduite. Quand ils ont besoin d'ouvriers, vous n'avez pas le choix. Ou bien vous prenez ce qu'on vous offre. Ou bien vous êtes considéré comme refusant de travailler, même si vous avez déclaré clairement que vous voudriez travailler dans une autre branche. La même atmosphère se retrouve dans la cour de récréation, où la plus petite erreur peut, non pas simplement vous valoir un rapport de mauvaise conduite et un séjour au centre de redressement, mais vous coûter la vie. Un coup de poing, un banal et passager mouvement de mauvaise humeur déclenche une fusillade en direction du bagarreur qui a la peau la plus sombre.
Myself after the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, say. To coast, 'cause love makes me cold and hurt inside. These tears of mine are just about begging you to save me. Hang on, somebody save me. Coast. No, it makes me cold and hurt.
pouvez avoir la moindre idée des mauvais sentiments qui résultent du partage d'un seul poste de télé par 140 hommes. Pensez un peu. Une télé, 140 hommes. S'il n'y a plus d'une chaîne, qu'est-ce qui se passe? Dans les salles de télé de Soledad, des hommes se sont entretués, estropiés, de nombreux postes ont été détruits. Les Noirs sont d'un côté de la salle, les Blancs et les Mexicains de l'autre. N'est-il pas significatif que le nombre de Noirs emprisonnés soit suffisant pour justifier l'attribution qui leur est faite de la moitié des places? Nous avons notre côté, ils ont le leur. Imaginez maintenant que Nina Simone chante, qu'Angela Davis parle, que Jim Brown paraisse sur une chaîne, tandis que sur l'autre, Merle Haggard chante des tyroliennes et supplie qu'on lui botte le cul. Que va-t-il se passer? La bagarre éclate aussitôt qu'un frère, plus avide de beauté que de démocratie. Nous votons, mais ils sont 60 et nous 40. Tourne le bouton pour voir Angela Davis. Comment croyez-vous que cela va finir? N'est-ce pas Angela et moi qui allons gagner contre Merle Haggard? Cependant, cette situation est tolérable, au moins jusqu'à un certain point. Il y a eu pire. Lorsque je suis arrivé ici, ils avaient la moitié de la salle et nous l'autre. Mais notre moitié à nous était celle du fond. Dans un cas comme celui que je conviens de mentionner, les détenus blancs commencent par se passer le mot pour que tous soient dans la salle de télé au moment du vote et choisissent Cadillac Cowboy. Chacun des deux groupes avait agi conformément aux règles d'une situation créée par qui? C'est exactement comme au dehors. Rien de compliqué dans tout cela. Quand les gens ont des intérêts opposés, quand le déséquilibre est la norme, quand les institutions tombent en morceaux, c'est la faute de ceux qui nous gouvernent. Ils n'agissent pas correctement. Ils n'auraient pas dû être investis de telles responsabilités. Et ce n'est pas une activité politique à long terme qui va venir en aide à l'homme qui doit mourir ce soir ou demain. Ceux qui prennent la défense du régime reconnaissent que les prisons sont des endroits où règne la terreur. Mais ils justifient les excès des flics en prétendant que nous nous sommes placés en dehors des règles de conduite d'un monde civilisé. Parce que nous sommes des condamnés avant d'être des hommes. Une balle dans la tête, une exécution sommaire pour s'être bagarré ou avoir franchi une ligne n'a rien d'excessif ou d'absurde. Toute la gamme des moyens violents est autorisée contre nous, sous le prétexte qu'on ne peut agir autrement avec des condamnés. Vous êtes-vous jamais demandé ce que devait être l'homme qui détiendrait un pouvoir absolu? Je veux dire, combien d'hommes n'abuseraient pas de ce pouvoir? Existe-t-il un moyen de reconnaître et de classer ceux à qui l'on peut confier un fusil et accorder le droit absolu de s'en servir pour tirer sur qui bon leur semble? J'ai déjà dit que la plupart d'entre eux appartiennent au KKK. Les autres, tous les autres, sont en général si stupides qu'on ne devrait même pas leur laisser faire couler leur bain tout seul. Un gouvernement responsable aurait bien trouvé un moyen d'éliminer la plupart de ces sauvages qui occupent depuis longtemps des emplois leur donnant le droit d'utiliser des armes. Comment y sont-ils parvenus? Des hommes qui savent tout juste lire et écrire. Comment ont-ils fait pour en arriver là? Vous pourriez tout aussi bien donner un fusil à un babouin et le lâcher sur nous. C'est pareil ici, pareil dans les rues. Qui a permis de traiter ainsi des gens qui étaient déjà des victimes? Les Reagan, les Nixon, les possédants, les maîtres. Examinez ce que sont les flics. Aucune qualification ne leur est demandée. Aucune expérience n'est nécessaire. N'importe quel imbécile qui atterrit ici et peut signer son nom a le droit de tirer sur moi demain. Posté à 9 mètres au-dessus de ma tête, avec un fusil militaire automatique. Il peut être complètement saoul. Ce peut même être vraiment un accident. Il n'y a pas une chance sur un million, mais enfin. De toute façon, il sera protégé. Il ne perdra même pas une journée de salaire. Les manuels de criminologie aiment faire état du fait que les prisonniers sont des déficients mentaux. N'est-ce pas là dénoncer clairement une imperfection du système? Ceux qui sont chargés de l'organisation pénitentiaire considèrent les prisons comme des asiles. La plupart des règlements sont élaborés par des secrétaires qui suivent les directives de l'administration centrale des prisons. Que dire, alors, de ces asiles où jamais aucun détenu n'a été soigné? D'où les détenus sont toujours repartis plus mal en point physiquement et mentalement qu'ils ne l'étaient à leur arrivée. Telle est la vérité. Alors est-il besoin de continuer à étudier la psychologie du détenu? Où commence la responsabilité de l'administration? Peut-être l'administration ne peut-elle être tenue pour responsable de chaque agissement individuel. Mais quand le désordre éclate pour des raisons raciales, quand la catastrophe peut être expliquée clairement par des circonstances qui échappent au contrôle même des gardiens et de l'administration, toute enquête sur autre chose que les arcanes du système fasciste n'a aucun sens. Rien ne s'est amélioré. Rien n'a changé depuis le passage de votre groupe d'enquête. Nous sommes toujours sur la même pente. Les Noirs perdent rapidement le peu de patience qui leur restait. Un nombre croissant de Noirs se voit écarté quand les dossiers de libération sur parole sont examinés. Ils commencent à comprendre que leur seul espoir est dans la résistance. Ils ont appris que la résistance est en fait possible. Les barrières sont en train de céder. Très peu d'hommes emprisonnés pour des délits d'ordre économique ou même pour des actes de violence envers l'oppresseur se sentent vraiment coupables. La plupart des Noirs aujourd'hui détenus se sont mis à comprendre qu'ils étaient les victimes et les dupes d'un ordre injuste. Jusqu'à maintenant, l'espoir d'une libération sur parole nous retenait d'affronter nos geôliers avec une résolution suffisante. Mais maintenant, avec nos conditions de vie qui se détériorent et la certitude que nous avons d'être voués à l'extermination, nous nous sommes transformés en une implacable armée de libération. Cette situation qui se développe entraînera la mort de quelques personnes. Ce n'est pas un avertissement, encore moins un souhait. Je ne vois là qu'une inévitable conséquence du fait que nous avons placé ou laissé le contrôle de nos existences entre les mains d'hommes comme Reagan. Ces prisons ont toujours eu une certaine ressemblance avec Dachau et Buchenwald. Elles ont été faites pour les mauvais Noirs, les Mexicains, les Blancs pauvres. Mais au cours de la dernière décennie, le pourcentage des Noirs enfermés ici pour des délits, qui sans conteste découlent de causes économiques et politiques, s'est accru. Il y a encore ici quelques Noirs qui se considèrent comme des malfaiteurs, mais pas beaucoup. Croyez-moi, mon ami, avec le temps et les stimulants que sont pour ses frères la lecture, l'étude, la réflexion, vous ne trouverez bientôt aucune classe ou catégorie sociale plus consciente, plus amère, plus désespérée et plus désireuse de se vouer à l'ultime remède, la révolution. Les plus convaincus, les meilleurs d'entre nous, vous les trouverez dans les Folsom, les San Quentin et les Soledad. Ils vivent comme s'ils n'avaient pas d'avenir, et d'ailleurs, la plupart n'en ont pas. Ils l'ont compris à un moment ou à un autre. Leur vie était comme réglée d'avance. 3 ans de prison, 3 mois de liberté sur parole, et on recommence. George Jackson, avril 1970. Lettre à Mrs. Feistender, avocate.